Les Anglais pratiquent le Dry January. Au Québec, on fait le mois sans alcool en février. On a tendance à penser que c'est une bonne résolution, mais est-ce que scientifiquement et médicalement, c'est une si bonne affaire? Il y a Michael Bensoussan, notre doc, qui est ici pour nous en parler. Allô, Michael?
Salut. En fait, je les ai mal jugés, Maroon 5. Je voulais juste dire, cette toune, elle était super le fun.
Ouais. Mine de rien, Michael, quand même, il y a plusieurs Québécois qui embarquent dans le mois sans alcool. Pourquoi c'est aussi populaire, selon toi?
Ben, à mon avis, et de l'avis d'un peu tout le monde, ça doit quand même venir d'une sorte de sentiment de culpabilité collective que tout le monde éprouve après les fêtes, à avoir mangé et bu jusqu'à s'en fendre l'organisme. Alors, probablement que les gens se sont dit, bon, je vais faire une petite pause. Et puis, ben, tout le monde sait que l'alcool, c'est plutôt calorique. Donc, participer à une remise un peu en forme. C'est arrivé de l'Angleterre, tout ça. Ça a été créé il y a plusieurs années en Angleterre, le Dry January, le janvier sec. C'est arrivé assez rapidement aux États-Unis, puis quand c'est passé au Québec, comme nous autres, on fait rien comme le reste du monde, on l'a fait en février. Mais, mais je dirais qu'au Québec, c'est fait de manière assez intéressante. Vous les avez entendu parler. On a créé le défi 28 jours sans alcool.
Février, c'est moins long.
Février, oui, c'est 3 jours de mois.
C'est ça.
Mais en même temps, le 1er janvier, c'est maudit de pas boire là, fait qu'on fera le mois d'après.
Mais donc, c'est arrivé de là. Et puis, comme tu le dis, ça nous a donné des données intéressantes parce qu'une littérature médicale qui nous explique que diminuer la consommation d'alcool, c'est bon pour la santé, on en a en masse et on en a depuis des décennies. Donc, on sait très bien qu'effectivement, quand on diminue, quand on stoppe la consommation d'alcool, ça a des effets à court terme. Donc
consommation excessive, non?
Alors, la grande majorité de la littérature était effectivement sur la consommation excessive parce qu'effectivement, quand on est dans la littérature, si tu veux, sur ce qui est la mortalité cardiovasculaire ou le facteur de risque de développement de cancer que peut être l'alcool, etc., etc. On est sur des gros consommateurs ou des consommateurs abusifs. En tout cas, des consommateurs quasi quotidiens. Bon. Alors, c'est sûr que ça, on sait depuis très longtemps que ça fait énormément de bien à la santé. Maintenant, avec, dans les pays anglo-saxons, puis maintenant au Québec, l'apparition de ces mois sans alcool, on a des nouvelles cohortes qui arrivent. C'est-à-dire, c'est comme un refresh, un rafraîchissement comme ça de la littérature, de dire, bah, écoute, là, on a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui vont volontairement s'arrêter de boire pendant un mois et qui demandent qu'une chose, c'est un petit peu être suivi, être accompagné avec ça.
C'est quoi les bénéfices réels qui peuvent ressentir?
Alors, les bénéfices réels, il y en a plein. Un, ça fait très rapidement diminuer la tension artérielle. Donc, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont obligés de prendre une pilule à tous les jours parce qu'ils ont de la tension, mais qui boivent assez régulièrement de l'alcool, le fait de diminuer sérieusement, voire d'arrêter l'alcool, peut résoudre les problèmes de tension artérielle. L'alcool, ça se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le teint et sur la peau parce que l'alcool joue énormément sur notre niveau d'hydratation. Hein, là encore, je n'ai pas besoin d'insister, quand on boit beaucoup de bière, on va beaucoup à toilette. Ça n'est pas seulement à cause de la bière, c'est un effet sur l'hormone antidiurétique, l'ADH, qui est sécrétée par le cerveau. En tout cas,
on se déshydrate
avec l'alcool. Donc, quand on boit beaucoup moins d'alcool, on est mieux hydraté et on a un teint plus frais, plus jeune et plus rose. Et ça se voit très rapidement. Mortalité cardiovasculaire, mortalité en diminution sur le cancer, gros effet de l'alcool sur la qualité du sommeil, sur notre niveau de concentration, d'irritabilité et sur les dépressions.
Mortalité en diminution sur le cancer.
L'alcool.
Tu veux dire quelqu'un qui a le cancer qui prend pas d'alcool.
Non, je veux dire que l'alcool est un facteur cancérigène pour beaucoup d'organes, notamment pour tout ce qui est le pharynx, l'œsophage, l'estomac, le foie, et que évidemment lorsqu'on arrête l'alcool, ce facteur de risque disparaît.
Il y en a qui parlent d'énergie aussi, hein, qui disent que l'énergie est plus forte.
Meilleur sommeil, plus d'énergie, évidemment.
On va aller faire un tour sur la route là où c'est pas bon de boire de l'alcool et conduire. Mais je veux savoir s'il y a des trucs, Doc, pour bien réussir son régime à sec et s'il y a le danger de, tu sais, quand tu te prives de quelque chose, de retomber dedans deux fois plus après.
Oui.
Ah, c'est bon.
On est en compagnie du doc Michael Bensoussan, pardon. Il y a le Dry January et au Québec, c'est le mois de février sans alcool, le mois sans alcool.
Et Patrice. Donc, avant de savoir s'il y a des trucs pour bien réussir, est-ce qu'il y a le danger que de se priver pendant 28 jours, ceux qui aiment bien consommer occasionnellement ou régulièrement risquent de retomber dedans? Moi, je sais que quand je me prive de dessert puis que je tombe dans le dessert la première fois, je me gaffe puis je rattrape.
C'est ça. Bien sarf.
Exactement.
Justement, avec les nouveaux résultats, des nouvelles cohortes, des nouvelles études, études qu'on a là-dessus, on a des résultats qui sont quand même très intéressants, parce que la plupart des participants, globalement les deux tiers, des gens qui participent à ce mois, à la fin du mois, ils se disent que quand ils recommencent comme ça l'alcool, ils ont beaucoup plus de facilité socialement à refuser des verres, et leur consommation a beaucoup diminué. Donc ça, c'est vrai pour les deux tiers des participants. Donc l'effet à long terme, y compris quand on commence l'année avec un mois sec comme ça, il est tout à fait marquant. Par contre, tu parles éventuellement de phénomènes physiques de sevrage. Alors ça, c'est intéressant, parce que ce qui est aussi très marquant dans ces mois sans alcool, c'est que c'est un face-à-face avec toi. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup de gens, on va pas se mentir, qui disent on va faire un mois sans alcool, parce qu'au fond, on se dit, j'en bois-tu trop de l'alcool? Cette notion de consommation abusive de l'alcool est très relative. Il y a énormément de gens, nous-mêmes ou dans notre entourage, il y a eu des moments dans notre vie, on s'est dit, mais est-ce que je suis pas en train de virer vers une dépendance? Est-ce que je bois trop? Est-ce que je bois plus que de raison? Alors, ce mois sans alcool permet de mesurer ton rapport avec l'alcool, permet de mesurer quelle est l'importance de l'alcool dans ta vie, à quel point c'est difficile, combien de fois par semaine, par jour, tu as besoin de dire « non, je suis dans mon mois », etc. « Non, je ne vais pas aller sortir avec vous, je ne vais pas aller dans un bar ».
Ça, c'est intéressant.
C'est ça, c'est une sorte de prise de conscience. Et au-delà de ça, si quelqu'un dans ton entourage ou toi, pendant ton mois sans alcool, tu ressens sur ton organisme des effets bizarres, sur ton humeur, des sueurs ou que sais-je, des vrais signes de sevrage, alors tu as probablement un problème avec l'alcool, alors ton mois avec l'alcool a été un beau face-à-face avec toi, puis c'est le temps de demander de l'aide et de consulter chez ton doc pour dire je vais avoir besoin transitoirement d'un petit traitement, d'un petit soutien.
C'est ta spécialité, tu es un gastro-entérologue, Michael.
Voilà, on s'occupe de beaucoup de pathologies liées à l'alcool.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Tu dois en voir dans ta pratique. L'alcool, ça doit être un facteur important des patients qui sont en avant de toi, non?
Écoute, là, je te dirais, je suis dans ma semaine de garde. Je suis à l'urgence dans un hôpital de la Montérégie dont le taux de remplissage était hier de 170%. Vous l'avez tous lu et entendu. On a des patients dans les civières comme ça se peut pas. C'est vrai que j'étais déjà venu parler de ça l'année dernière, et puis que l'année dernière, c'était beaucoup les épidémies de gastro, d'influenza. C'est ça aussi. Probablement cette année, quoique cette année le vaccin est particulièrement efficace. Si vous n'avez pas été vacciné contre la grippe, chers auditeurs, il n'est pas trop tard. L'épidémie n'est pas terminée. Mais moi, ce que j'ai constaté dans mon service de gastro-entérologie, c'est que le temps des fêtes, par rapport à l'alcool, a été un véritable ravage. Le nombre de patients qu'on a dans nos lits qui sont là parce que il y a eu le mois de décembre et il y a eu soit beaucoup de festivités, soit à l'inverse, beaucoup de solitude. Et donc beaucoup de solitude, beaucoup d'hyperconsommation d'alcool pour éviter ça. Notre service de gastro-entérologie, notre étage de gastro-entérologie, l'urgence est pleine de patients qui ont la santé ruiné à cause de l'alcool. Alors, ça peut servir à ça aussi, chers auditeurs, si vous pensez qu'il y a quelque chose à réfléchir, vous, avec l'alcool, foncez aussi sur le défi sans alcool, ça verse de l'argent, ça sensibilise les jeunes là-dessus, c'est que du bien, c'est qu'une bonne manière de commencer l'année.
Merci, Doc.
Merci, Doc. Merci.
En semaine, dès 5h25.
96.9.